RFI à Paris, 14h10, 8h10 à Washington, l'heure de retrouver votre journal des Amériques avec vous, Céline Pellerin.
Bonjour Adrien Delgrange, bonjour à toutes et à tous. Déjà la première brouille diplomatique de 2018 pour le président américain. Donald Trump a tweeté que les États-Unis avaient, je cite, bêtement versé plus de 33 milliards de dollars au Pakistan au cours des 15 dernières années, n'obtenant en échange que mensonges et tromperies. Un tweet qui n'est évidemment pas du goût d'Islamabad, qui a convoqué hier à l'ambassadeur des États-Unis. Et les Américains vont en 2018 retourner aux urnes. Ce sera en novembre, les fameux midterms, les élections demi-mandat pour renouveler le Congrès. Les Républicains détiennent la majorité de la Chambre des représentants et du Sénat, mais ça ne va peut-être pas durer. C'est ce que nous verrons avec Stéphanie Schuller, qui a préparé ce dossier où l'on se projette loin en 2018. Et la revue de presse, ce sera avec Romain Lemaresquier. Bonjour.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
On verra avec vous qu'au Venezuela, l'Église sermonne l'État. Les évêques demandant au gouvernement de faire plus d'efforts pour résoudre les crises politiques, économiques, sociales qui minent le pays. En 2017, le Venezuela a connu presque 2700% d'inflation. Enfin, Rimli Paul viendra nous raconter une mutinerie qui s'est déroulée au Brésil. Une émeute dans une prison près de Brasilia. Le bilan est lourd, 9 morts, 14 blessés et presque une centaine de détenus qui s'est fait la belle. La revue de presse des Amériques, Romain Lemaresquier, avec à la une cette réponse des autorités pakistanaises au premier tweet de l'année 2018 signé Donald Trump.
Oui, hier lundi, le président américain annonçait dans son premier message de l'année qu'il pourrait tout simplement supprimer l'aide fournie au Pakistan parce que selon lui, Islamabad n'en fait pas assez pour combattre le terrorisme, détaille le Washington Post ce matin. La réponse à cette missive ne s'est pas fait attendre, comme l'explique le quotidien. C'est le ministre pakistanais de la Défense qui s'en est chargé. Le Pakistan est un allié dans la lutte contre le terrorisme, écrit-il. Nous avons fourni des moyens en communication terrestre et aérien, fourni des bases militaires, partagé du renseignement, ce qui a permis de décimer Al-Qaïda ces 16 dernières années, alors que les États-Unis n'ont fait que proférer des insultes et distiller de la méfiance à notre égard.
L'ambassadeur américain à Islamabad a été convoqué hier pour expliquer les propos de Donald Trump.
Oui, c'est ce que précise le quotidien qui reprend également les propos du ministre pakistanais des Affaires étrangères pour qui cette sortie sur les réseaux sociaux du président américain ne reflète qu'une chose, la frustration des Américains par rapport à la situation en Afghanistan, c'est-à-dire le fait, je cite, que les États-Unis soient pris au piège dans une impasse. Pour le Washington Post, cette tension pourrait bien marquer la fin ou tout du moins la baisse de l'aide américaine pour le Pakistan, une baisse pressentie depuis des mois dans les couloirs du Congrès américain.
Et la diplomatie américaine décidément malmenée en ce début d'année, Romain. En effet, l'appel au dialogue avec la Corée du Sud lancé par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un pourrait déstabiliser bien les relations entre Séoul et Washington.
Oui, c'est en tout cas ce qu'estime le New York Times qui explique que contrairement à Donald Trump, le président sud-coréen Moon Jae-in, un libéral, a toujours été en faveur de relancer les relations économiques et diplomatiques avec son voisin du Nord. L'appel lancé ce dimanche par Kim Jong-un pourrait donc mettre à mal l'alliance qui date depuis plus de 70 ans entre les États-Unis et la Corée du Sud. Le quotidien rappelle les vétos émis par le président sud-coréen suite aux menaces de frappe préventive de la part de Washington. Deux visions donc diamétralement opposées. Les autorités nord-coréennes qui jusqu'à présent ont toujours présenté et Moon Jae-in comme une marionnette de Washington veulent s'engouffrer dans cette brèche, estime le New York Times, misant sur le fait que sans le consentement de Séoul, Washington aura du mal à accroître la pression sur Pyongyang. Une première rencontre a déjà été convenue entre les deux Corées. Elle se tiendra le 9 janvier prochain avec en toile de fond la participation de la Corée du Nord aux Jeux Olympiques d'hiver qui débuteront le 9 février.
Et on part à présent au Brésil, dans l'état de Goiás, dans le centre-ouest du pays. Une mutinerie dans une prison a fait 9 morts et 14 blessés hier. Plus de 70 détenus se sont échappés du centre carcéral et ce qui est à l'origine de cette mutinerie à Rimli Paul, eh bien ce sont des affrontements entre prisonniers qui appartiennent à des bandes rivales.
Exactement Céline, un groupe de prisonniers a envahi plusieurs blocs cellulaires et y a mis le feu. Au moins deux détenus sont morts dans les flammes. 106 prisonniers ont réussi effectivement à s'évader. Pendant les affrontements, la police en a capturé 29. La mutinerie a été maîtrisée au bout de 2 heures, d'après l'administration pénitentiaire qui a tenté de minimiser cet incident. Il s'agissait non pas d'une rébellion des prisonniers, mais d'un affrontement interne. Lorsque les violences ont éclaté hier après-midi, il y avait seulement 5 gardes dans cette prison de Goiânia, la capitale de l'état de Goiás. Ils étaient responsables de la surveillance de 900 détenus. Il faut savoir que ce genre d'incident est très très fréquent au Brésil, qui compte l'une des plus importantes populations carcérales au monde. La partie de la prison dans laquelle les violences ont éclaté devait abriter à l'origine 120 détenus. Aujourd'hui, ils sont plus de 400. Leurs proches évoquent des conditions d'hygiène et d'alimentation précaires. L'année dernière, plus de 100 personnes sont mortes dans les prisons brésiliennes, la plupart victimes d'affrontements entre bandes rivales.
Arim Lipold en direct sur RFI. On continue votre revue de presse au Venezuela, Romain Lemaresquier. Le Venezuela où l'Église appelle les autorités à organiser des élections transparentes et à prendre des mesures pour répondre à l'urgence sociale dans le pays.
Oui, c'est le cardinal Jorge Urosa Savino qui a adressé ce message hier, nous apprend le quotidien El Nacional. L'Église vénézuélienne qui a un temps tenté de faciliter le dialogue entre l'opposition et les autorités avant de jeter l'éponge, appelle le pouvoir à organiser, je cite, des élections dans des conditions équitables afin qu'il n'y ait pas de processus vicié comme cela a été le cas récemment. Jorge Urosa fait la référence à l'élection présidentielle qui doit se tenir cette année. Le cardinal, qui est également l'archevêque de Caracas, estime par ailleurs que l'autre grand défi, l'autre urgence pour cette année 2018, ce sont les pénuries alimentaires, de médicaments ou encore de pièces de rechange qu'il faut absolument combattre. Ce sont les problèmes les plus graves que doivent affronter à l'heure actuelle les Vénézuéliens selon cette église vénézuélienne.
Des problèmes qui ne seront pas résolus avec l'augmentation du salaire de base annoncée le 31 décembre par le président Nicolas Maduro.
C'est ce qu'explique ce matin El Universal. Les 40% d'augmentation annoncée par le président risque même d'avoir l'effet inverse pour Maria Carolina Uzcategui, présidente du Consejo Comercio, une organisation patronale vénézuélienne interrogée par le quotidien. Contrairement à ce qu'il se passe ailleurs, une telle augmentation au Venezuela va provoquer une accentuation de l'inflation, plus de problèmes, plus de pénuries. C'est la sixième hausse du salaire de base depuis le 1er janvier 2017 et les cinq antérieures ont prouvé que cette approche n'était pas la bonne, explique-t-elle. Comme le précise El Nacional dans son édition du jour, le Venezuela, selon les calculs de l'ONG Eco Analytica, a clôturé l'année avec près de 2700% d'inflation. C'est le seul pays au monde avec une inflation à quatre chiffres selon El Nacional.
Enfin, avant de se quitter, Romain Lemaresquier, un mot du New York City Ballet qui change de directeur suite à des soupçons de harcèlement sexuel et d'abus physiques.
Oui, le Danois Peter Martins, ancien premier danseur et qui dirige le ballet new-yorkais depuis 1989, a annoncé qu'il prenait sa retraite dans une lettre adressée au conseil d'administration, nous apprend le New York Times. Peter Martins fait l'objet d'une enquête depuis octobre dernier suite à l'envoi d'une lettre anonyme dans laquelle figurait un certain nombre d'accusations. Un groupe de danseurs avait ensuite contacté le New York Times pour porter d'autres accusations sur des faits allégués remontant à 1983 lorsqu'il co-dirigeait ce ballet. Peter Martins continue de nier ces accusations selon le quotidien qui a pu avoir accès à une copie de la lettre adressée au conseil d'administration.
Merci Romain Lemaresquier pour cette revue de presse du continent à trouver sur le www.rfi.fr. Et on va rester aux États-Unis, continuer de parler de harcèlement sexuel, où le scandale Weinstein a été l'occasion d'une prise de conscience collective. Et en ce début d'année, plus de 300 actrices, femmes scénaristes ou metteurs en scène américaines ont lancé un projet pour lutter concrètement et partout dans le pays contre le harcèlement sexuel au travail. Un projet qui englobe toutes les professions et toutes les catégories d'employés. Isabelle Chenu.
Le projet s'appelle Time's Up, traduisez c'est fini. Il est soutenu par des actrices célèbres comme Kate Blanchett, Natalie Portman ou Meryl Streep, en tout 300 femmes puissantes d'Hollywood qui ont choisi ce début d'année pour lancer une fondation destinée à combattre les agressions sexuelles au travail. L'organisation a déjà recueilli 13 millions de dollars sur les 15 qu'elle s'était fixée. Un fonds qui servira aussi bien aux femmes qu'aux hommes victimes de harcèlement sexuel sur leur lieu de travail, afin de les aider à payer les frais de justice et à se défendre correctement contre leurs agresseurs, et notamment dans des domaines moins glamour que le cinéma, comme celui des domestiques, des concierges, des ouvriers et des serveuses. L'organisation appelle à une législation qui pénaliserait les entreprises qui tolèrent le harcèlement. Il souhaiterait aussi mettre fin aux accords de non-divulgation des faits qui achètent parfois le silence des victimes contre une somme d'argent. Dimanche prochain à Los Angeles, lors de la cérémonie des Golden Globes, les actrices ont prévu de porter du noir et de s'exprimer sur le sujet pour sensibiliser les médias à la cause.
Isabelle Chenu, il est 8h19 à Washington. Et en cette année 2018, les Américains vont donc retourner aux urnes. En novembre, ils doivent renouveler la composition de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour.
Actuellement, ce sont les Républicains qui détiennent la majorité dans les deux chambres du Congrès. Mais cette situation risque de changer lors des élections demi-mandat.
En effet, au sein du Parti républicain, tous les voyants sont au rouge. Ces derniers mois, les candidats conservateurs ont essuyé différentes défaites électorales dans les États, remportées pourtant en 2016 par Donald Trump. Et pour novembre prochain, les enquêtes d'opinion semblent annoncer une véritable déferlante démocrate. Stephen Smith est professeur en sciences politiques à la Washington University de St. Louis.
Les sondages nationaux montrent une avance de 10 points pour les démocrates quand on demande aux Américains pour quel parti ils voteront en novembre prochain. Cette tendance se soldera par une perte d'au moins 30 sièges pour les conservateurs, une défaite suffisamment importante pour que le parti républicain perde sa majorité dans la Chambre des représentants. Les républicains ont donc raison d'être très nerveux ces jours-ci.
Et quelles sont donc les raisons de cette débandade annoncée ?
Eh bien, les républicains, dans l'opposition durant les 8 années de la présidence Obama, n'ont pas réussi à transformer leurs paroles en actes.
Leurs efforts pour abolir l'Obamacare ont échoué. La réforme fiscale qu'ils viennent d'adopter n'est pas populaire et ils ne se sont pas occupés de très nombreux dossiers qui figuraient pourtant parmi leurs promesses électorales, comme la réforme de l'immigration, la construction du mur, le renforcement des infrastructures, le financement d'un programme sur la santé infantile. Tout cela, ce sont des points négatifs et cerise sur le gâteau, les républicains ont dû gérer l'administration Trump. Or, Donald Trump est très impopulaire.
Même une partie de l'électorat républicain reproche désormais à Donald Trump sa façon d'incarner la fonction présidentielle. Corentin Célin, professeur agrégé d'histoire et spécialiste des États-Unis.
Ses tweets inconsidérés, son goût de la polémique, son goût de l'invective, ont fini par lasser, y compris dans le camp républicain. On aimerait, très clairement d'après sondage, même chez les républicains, un peu plus de dignité dans la fonction de la part de Trump.
Sans oublier l'affaire sur les ingérences russes dans la dernière présidentielle américaine et l'enquête du procureur spécial Robert Mueller qui tente d'élucider les liens supposés entre l'équipe de campagne de Donald Trump et Moscou.
Si il devait y avoir de nouveaux rebondissements durant le premier trimestre 2018, ce sera évidemment un enjeu essentiel des élections de mid-term qui deviendront à ce moment-là un référendum sur premièrement, la viabilité de Trump président et surtout sur la poursuite ou pas de l'enquête Mueller.
Face à cette conjoncture très incertaine, Stéphanie, dont ils ne maîtrisent pas toutes les composantes, les républicains tentent de s'organiser.
Mais ce n'est pas évident de trouver une stratégie commune, explique Stephen Smith.
D'abord, ils aimeraient que le président cesse d'être un problème pour eux. Ensuite, il s'agit pour les républicains de savoir combien de chantiers législatifs ils devraient entreprendre dans les mois à venir. Beaucoup d'entre eux souhaitent mener une campagne sur des thèmes qu'ils fixeraient individuellement. Ils ne souhaitent pas être trop associés à la réputation du Parti national. Donc beaucoup de ces républicains voudraient que l'agenda législatif au Congrès ralentisse pour qu'ils puissent mener campagne comme ils l'entendent.
Et puis, il y en a qui décident carrément de ne pas se représenter, comme le républicain modéré Charlie Dent, élu pendant 25 ans à la Chambre des représentants. Et voilà ce qu'il a dit il y a quelques jours dans une interview accordée à la chaîne ABC.
Il est évident que les républicains vont essuyer des défaites. Reste à savoir si on perd notre majorité à la Chambre ou au Sénat. Donc j'ai dit à mes collègues, nous allons nous prendre le vent de face. Vous feriez mieux de vous préparer au pire.
Et voilà, merci Stéphanie Schuller pour cet état des lieux au Congrès américain avant les élections de novembre, les midterms. Et on suivra avec attention cette campagne électorale et cette élection jusqu'en novembre sur RFI et dans le journal d'Haïti et des Amériques. Le journal de la première est présenté par Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Céline.
24 ans après la fin de son utilisation aux Antilles, le pesticide chlordécone empoisonne toujours les deux îles et dans tous les sens du terme.
Oui, dernier épisode en date, cette décision validée par l'Europe et le ministère français de l'Agriculture, décision d'augmentation des doses dites légales de chlordécone dans la viande et la volaille en Martinique et en Guadeloupe. Les limites maximales de résidus sont ainsi multipliées par 5 pour la viande et par 10 pour la volaille. Décision incompréhensible et révoltante pour le député de la Martinique Serge Letchimy, qui a aussitôt adressé une lettre de protestation au ministre de l'Agriculture.
C'est une très mauvaise décision. Alors, on peut trouver des prétextes qu'on veut, mais comme nous ne savons pas exactement quelles sont les conséquences précises de la chlordécone, on a des suspicions assez fermes et même avérées sur l'excroissance des cancers sur la prostate, les perturbateurs endocriniens qui conduisent à la remise en cause de la fertilité, hommes et femmes, et avec des conséquences graves sur la santé. À partir du moment qu'on a ces incertitudes-là, on ne peut pas se permettre de prendre une décision de passer des 20 microgrammes par kilogramme d'aliments ou de viande à 100 pour la partie viande tout court et à 200 pour la partie volaille. On risque d'exposer la population à des dangers pour lesquels on n'aura pas la maîtrise.
Il n'y a pas eu de faute dans la prise en charge d'un nourrisson de 7 mois, malheureusement décédé le 25 décembre dernier, jour de Noël, après deux passages de ses parents aux urgences de l'hôpital de Cayenne, en Guyane. Telle est la conclusion rendue par l'enquête diligentée par l'Agence régionale de santé. Il n'en reste pas moins, évidemment, que ce drame a cruellement mis en évidence l'absence d'un pédiatre la nuit aux urgences. Une leçon qu'il faudra retenir, selon la directrice du centre hospitalier André Rosemont de Cayenne, Agnès Drouin. Elle est au micro de Sébastien Laporte.
Ça reste un séjour, un service d'urgence polyvalent, ce qui ne l'empêche pas de structurer des filières particulières de prise en charge, pédiatrique d'un côté, adulte de l'autre. C'est un travail qui est déjà en cours, à la fois sur la géographie des lieux et aussi sur l'organisation des équipes soignantes. Il faudra accélérer le processus pour que la population de ce département ait confiance dans l'organisation des urgences. À la date d'aujourd'hui, on peut dire que les pratiques ont été respectées et conformes. Pour autant, le bébé est mort. Donc, il faudra quand même qu'on essaye de comprendre ce qui s'est passé indépendamment de ces bonnes pratiques pour voir comment on peut améliorer les choses. C'est ce qu'on appelle dans le jargon des hôpitaux des comités de retour d'expérience dont on se sert à chaque fois pour essayer de s'améliorer.
On reste en Guyane où, après 3 années de lutte, les agriculteurs touchent enfin le fruit de leurs efforts, autrement dit les aides européennes, 5 millions d'euros au total. Satisfaction évidemment pour les agriculteurs guyanais, mais un regret aussi qu'il ait fallu se battre pendant si longtemps auprès de l'Europe et des services du ministère français de l'Agriculture. Meilleurs vœux Céline, bon après-midi et à demain.
Merci Benoît Ferrand, meilleurs vœux à vous également et bonne journée à vous. Il est 8h26 à Port-au-Prince et à Bogota. Le journal d'Haïti et des Amériques, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était Jonathan Brady à la réalisation. On se retrouve demain pour une nouvelle édition et d'ici là, vous pouvez toujours faire un tour sur le site internet de RFI ainsi que sur la page Facebook du journal pour le relire, le réécouter et mettre un commentaire ou un j'aime. On ne perd pas les bonnes habitudes prises en 2017 et en plus, ça nous fait toujours plaisir. Passez une excellente journée à l'écoute de la Radio du Monde et pour clore ce journal, eh bien, nous faisons appel à une légende de la musique jamaïcaine, Clinton Fearon, avec Respect, cet extrait de son dernier album This Morning.
Back to the beginning. Respect the brilliance of that system. No need to rush, take it easy. No need to cuss, take it easy. There's enough for everyone. Respect the beginning. I said to respect the gifting of that system. Each is given a deck of cards, a clean start.
Bip 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 b Priorité santé.
Charlie Dupiot vous invite à poser vos questions sur le thème de demain.
Ballonnement, brûlures, remontées acides, comment soigner les maux de ventre et les prévenir? Quelles sont les complications possibles?
Appelez-nous au 33 1 84 22 75 75 ou écrivez-nous à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé.
Charlie Dupiot.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU.